Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, voici votre rendez-vous hebdomadaire avec le carnet de région. Une émission réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Pour cette semaine, c'est encore Radio Grille Ouverte à Alès qui en assure la rédaction en chef. Au sommaire de cette édition, handicap et emploi, deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Un triste constat dressé à l'occasion de la 18e semaine de l'emploi pour les personnes handicapées. La mutualité sociale agricole met en place des chartes de solidarité dans toute la France, et en particulier dans le département du Gard. Monde agricole encore, avec la tenue à Florac en Lozère d'un colloque régional consacré au thème de l'eau et des enjeux agricoles d'aujourd'hui. À Montpellier, les enfants de l'école élémentaire Ronceur ont élu leur représentant au conseil municipal des enfants. Enfin, nous resterons dans l'Hérault, plus précisément à Pézenas, où la littérature jeunesse est à l'honneur du festival La Maman des Poissons. Un bien triste constat est dressé par les associations à l'occasion de la 18e semaine nationale de l'emploi pour les personnes handicapées. Car le chômage dans cette catégorie de population est en nette progression avec une hausse de 10% en une année. Ainsi, à la fin juin, c'était plus de 425 000 personnes handicapées qui étaient à la recherche d'un emploi. Or, depuis la loi du 5 mars 2014, la compétence de formation professionnelle a été transférée aux régions. Alors, qu'en est-il concrètement ? La réponse de Jean-Paul Boré, conseiller régional délégué au handicap et à la lutte contre les discriminations, au micro de RCF Hérault.
Elle a été transférée dans l'esprit, mais pas dans la réalité encore, puisque les décrets ne sont pas parus. Nous avions anticipé avec nos services il y a déjà plus de 2 ans, parce que nous sommes sur le terrain de la formation professionnelle à partir de la compétence générale dont nous pouvons disposer aujourd'hui et dont on sait qu'il n'est pas sûr qu'on puisse le faire demain, compte tenu de la réforme territoriale. Or, précisément, la formation professionnelle des personnes en situation de handicap n'est toujours pas transférée. La conséquence, c'est que les crédits ne viennent donc pas et que cela ne fait toujours pas partie du programme régional qualifiant, au même titre que tout le reste de la formation professionnelle, qui est une compétence obligatoire des conseils régionaux. Pour nous, c'est un handicap, c'est le cas de le dire, parce que nous avons fait des expériences très très intéressantes, notamment dans le cadre de la trisomie 21 que nous accompagnons depuis maintenant 5 ans, la preuve est faite qu'avec un accompagnement particulier, une formation particulière, on peut faire travailler des gens en milieu ordinaire et on voudrait pouvoir l'étendre pour la trisomie 21, mais pour les autres catégories également, à l'ensemble de ce secteur. Oui, la formation professionnelle est le nœud, je dirais, on pourrait même dire le nerf de la guerre, pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent intégrer des activités professionnelles les plus diverses.
Alors on le sait, beaucoup d'entreprises préfèrent payer l'amende plutôt que de recruter. Comment est-ce qu'on peut encourager ces entreprises à employer plus de personnes handicapées ?
Eh bien, parce qu'il y a un côté citoyen aussi. Imaginez un instant qu'en France, vous ayez la possibilité, en payant une amende, de ne pas embaucher des Noirs, de ne pas embaucher des Chinois, tout le monde serait dans la rue. Eh bien aujourd'hui, pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil. On se contente de payer une amende et on est libre avec sa conscience. Je crois qu'il faut toucher au cœur des gens pour dire que cette situation n'est pas acceptable. Il y a un côté citoyen. On est tous des individus, des êtres humains. Il n'y a qu'une espèce humaine et on doit franchir toutes les étapes qui permettent que chacun soit considéré de la même manière. Et il y a des aides qui permettent aujourd'hui aux entreprises d'employer, grâce à la GFIP, grâce au nouveau fonds d'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction territoriale. Nous avons des organismes formidables comme Cap Emploi. Il y a un mouvement associatif qui accompagne. Des efforts ont été faits au niveau du fonds GFIP pour accompagner les gens. Bref, on a le pain et le couteau grâce à une action qui est aussi développée dans les filières professionnelles. Je pense à la CAPEB, ce sont les artisans et qui ont été les premiers à signer la charte handicap. Je pense à la Fédération régionale du bâtiment qui à la fois forme les salariés pour la question de l'accessibilité dans les logements qu'ils construisent, mais également en employant des personnes en situation de handicap. Donc, il y a réellement un engouement. Je pense qu'aujourd'hui, on serait arriéré si on continuait à considérer que l'amende permet d'évacuer la question principale, c'est que nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs.
C'était un sujet proposé par Romain Berchet de RCF Hérault. La mutualité sociale agricole met en place des chartes de solidarité dans toute la France, et en particulier en pays viganais où elles concernent nos aînés. La MSA, à ne pas confondre avec la NSA, car il s'agit de la sécurité sociale du secteur agricole pour les agriculteurs et les salariés agricoles. En plus de ce rôle de sécurité sociale, la MSA propose des actions sur le territoire par l'intermédiaire de son service d'action sanitaire et sociale. Christophe Boulanger, responsable de ce service, explique ce système de charte de solidarité.
Tout d'abord, il faut savoir que les organismes de protection sociale, quels qu'ils soient, signent avec les pouvoirs publics une convention d'objectifs et de gestion. C'est le cas pour la Caisse d'allocation familiale, pour la CPAM, c'est aussi le cas pour la MSA. Donc il y a un certain nombre d'objectifs fixés, d'effectifs, de budget, et pour tous les services, dont le service d'action sanitaire et sociale, des objectifs spécifiques. Et donc, il a été prévu le développement de chartes des solidarités avec les aînés dans toutes les régions de France. Et pour notre région Languedoc-Roussillon, c'est d'abord le côté Languedoc qui a été retenu. Et dans le Languedoc, c'est le Gard qui présentait toutes les conditions pour pouvoir les développer du fait d'un partenariat riche et intéressant. Alors la charte, on travaille depuis septembre, sachant qu'elle a été signée en mai 2014. Donc vous voyez, c'est récent, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections entre-temps, donc il a fallu attendre que les équipes des collectivités locales se mettent en place, ce qui est fait. À partir de là, un certain nombre d'actions peuvent se mettre en place. Quatre chartes ont été signées en tout cas. Je vais citer les territoires. Donc, il y a la communauté de communes de Petite Camargue, le canton de Saint-Gilles, la ville de Nîmes sur les quartiers Épinal-Val-de-Gour, et puis évidemment le pays viganais.
Une charte qui permet des actions concrètes sur le terrain, comme l'explique maintenant Rita Gourdéas, la chargée d'études, qui a permis de concrétiser ces actions.
On a commencé par informer les acteurs qui ont déjà une très bonne connaissance de leur territoire et qui font déjà beaucoup d'actions intéressantes. On les a en fait mis ensemble autour d'un projet, un objectif commun, la construction de la charte, pour développer entre elles en fait une synergie d'actions et pour les mettre en réseau. Parce que chacun aussi, pris par ses propres missions, parfois, ne voit pas qu'il pourrait se servir également des compétences des autres pour développer sa propre compétence en tant qu'association ou en tant que structure. De créer une cohésion sur un territoire autour d'une problématique commune. C'est simple, c'est lutter contre l'isolement surtout et favoriser l'accès aux droits, l'accès aux soins. Réfléchir ensemble à des solutions locales. Et aussi essaimer, quand il y a des solutions qui paraissent intéressantes sur un endroit, de pouvoir aussi les voir si elles peuvent s'appliquer sur un autre et se servir de l'expérience aussi des uns et des autres pour enrichir l'action vis-à-vis des personnes retraitées et âgées sur le territoire viganais, avec la difficulté aussi qu'a ce territoire de compter une grande population sur le Vigan, mais aussi beaucoup de personnes isolées dans des hameaux. Et ce n'est pas facile d'amener l'action auprès des gens isolés dans les communes sur les causes.
Ces chartes s'étaleront sur 3 ans, une période à la fin de laquelle la MSA espère voir se développer un réseau de structures pour continuer à lutter contre l'isolement et pour la mobilité de nos aînés. C'était un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade. Le 26 novembre prochain se tiendra à l'amphithéâtre de Sup Agro à Florac en Lozère, un colloque régional sur le thème « Eau et enjeux agricoles d'aujourd'hui ». Ce rassemblement ouvert à tous, animé par Robert Aiguin, président du syndicat agricole MODEF Lozère, sera l'occasion de faire le point sur la situation de l'eau dans l'agriculture, tant dans son utilisation que dans son stockage.
Le thème de l'eau, il est universel, c'est-à-dire qu'il est à la fois sur l'Aubrac, la Margeride et les Cévennes. Son utilisation, par contre, est différente d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits où c'est pour, ne serait-ce que pour alimenter le bétail, pour rassurer d'avoir une production fourragère suffisamment importante pour le troupeau, Dans d'autres endroits, c'est l'irrigation du pommier, l'irrigation du châtaignier, l'irrigation des cultures vivrières. Il y a à chaque fois un besoin d'eau. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est cette eau qui, bon an, mal an, est à peu près présente partout en quantité. C'est comment on peut la stocker, comment on peut l'utiliser au moment où on a le plus besoin et au moment où la loi sur l'eau nous dit de ne plus prélever dans le milieu. Donc il faut que l'on puisse mettre tout ça sur la table et que l'on puisse en discuter sereinement, avec aussi l'eau qui est un grand besoin d'eau pour les consommateurs, sur sa qualité d'abord aussi. Ce qui veut dire aussi qu'en agriculture, il va falloir peut-être que l'on fasse de plus en plus attention aux intrants que l'on met dans le sol, aux pesticides que l'on utilise. Alors je sais bien qu'un Lozère, ça c'est pas une grande partie, mais comme le colloque, il est aussi un colloque régional, où il y aura la participation des autres départements du Languedoc-Roussillon, on voit que les enjeux ne sont peut-être pas les mêmes partout.
Ce sera également l'occasion de trouver ensemble des solutions afin d'élaborer des projets pour l'avenir au niveau régional.
Alors les solutions, nous on a quelques idées, on est en train d'y travailler les uns et les autres là-dessus. Utiliser l'eau en agriculture avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, notamment le goutte à goutte, notamment avec du paillage, avec l'utilisation de plus en plus de végétaux que l'on mélange au sol de façon à ce que le sol soit perméable, que l'eau puisse alimenter directement la plante et utiliser de cette façon-là beaucoup moins d'engrais. Donc là, au-dessus, il y a débat, parce qu'il y en a certains aujourd'hui qui veulent utiliser l'eau simplement pour diluer l'engrais que la plante puisse l'assimiler. D'autres disent aujourd'hui qu'il faut utiliser l'eau d'une façon biologique, pour une agriculture biologique qui est respectueuse de l'environnement et de ce que l'on va laisser à nos enfants plus tard. Donc là, le débat de l'eau aussi, et son utilisation, et sur les quantités d'eau qu'il faut pour faire de l'agriculture, sont en débat, les syndicats agricoles ne partagent pas tous, le même point de vue sur ça. Donc c'est intéressant qu'il y ait un colloque sur l'eau en Lozère, notamment, pour qu'on puisse, pays des sources, dire oui, l'eau, on va l'utiliser de telle ou telle façon, ou on ne l'utilisera pas de telle ou telle façon.
C'était un sujet de Julia D'Apozzo de 48FM Mende.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Beaucoup de rires et aussi quelques larmes, mercredi 19 novembre au matin, dans le grand hall d'entrée de l'école élémentaire Ronsard à Montpellier. Tous les élèves des classes de CM1 et de CM2 étaient réunis pour une première expérience de démocratie locale. Il s'agissait d'élire 5 élèves au conseil municipal des enfants. Une quinzaine de candidats se soumettaient au suffrage de leurs camarades. Au final, ce sont Zoé, Tom, Esteban, Wassim et Iliès qui auront été élus. Mais que va-t-il se passer maintenant? Et que vont-ils faire? Explications et propositions ont été recueillies par Gilles Geoffrey de Radio Aviva.
On ne sait pas encore, mais on verra avec les autres personnes d'autres écoles qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour la ville et pour les écoles.
On sera 20 au total et il y aura 4 écoles qui seront avec nous et on décidera d'améliorer soit pour la ville de Montpellier, soit pour notre école ou alors en extérieur de la ville de Montpellier.
Mm-hmm. On privilégiera la ville et après, s'il nous reste un peu de place, et ben, on essayera de faire pour notre école.
Et aussi mettre un peu plus de végétation aussi. Mais il y en a déjà beaucoup.
Plus de végétation et contre la destruction du parc.
C'est ça, oui. Parce que franchement, construire encore du béton dans Montpellier, on a déjà assez, je pense.
Le maire, s'il veut construire tout ça, c'est pour accueillir d'autres personnes. Et donc, que les commerçants gagnent plus d'argent, puisqu'il y aura plus d'acheteurs. Et donc, du coup, le maire, ça rapporte plus. À chaque fois, ils font tout ça pour l'argent.
Réaliste, ces enfants. Et déjà bien au fait des dossiers. La question maintenant est de savoir que deviendront leurs idées une fois qu'ils se seront entendus avec les élus des autres écoles. La réponse de l'adjointe au maire déléguée à l'éducation, Isabelle Marsala, qui présidait au vote.
Oh, le conseil municipal des enfants, c'est quelque chose qui est un procédé démocratique complètement. C'est-à-dire qu'il y a 60 enfants qui vont être élus dans 11 écoles différentes de la ville de Montpellier, qui vont faire des commissions de travail pour exprimer leur volonté sur des transformations bénéfiques à leur école et à leur ville, et qui vont ensuite nous faire des propositions. Donc ils siègent comme un conseil municipal avec des préparations de dossiers, puis une présentation des résultats obtenus.
Qui reçoit leurs propositions?
La ville,
Et qu'est-ce qu'elle en fait après ?
Ah, nous avons en fin d'année un retour des enfants. Vous savez, moi j'ai été surprise l'année dernière. C'était extrêmement sérieux les fiches qu'ils nous ont fait, les projets qu'ils ont montés. C'était sérieux, c'était étayé, c'était intelligent. Donc ils nous ont fait ces propositions et nous en avons tenu compte dans les desiderata de la population.
Là déjà ce matin on a entendu, enfin on a vu les professions de foi accrochées au mur de l'école avec certaines propositions intéressantes. Il y en a l'une ou l'autre qui vous ont marqué plus que d'autres ?
Plus de carottes râpées à la cantine qui m'a fait rire, mais ça c'est un petit peu gag. Non, une grosse préoccupation de la sécurité aux abords des écoles. Visiblement, ils sont très sensibles à ce sujet. Beaucoup de demandes aussi au niveau des activités sportives et des activités culturelles.
Les plats de la cantine transformés en compost, les restes de la cantine transformés en compost, ça c'est une bonne idée.
Oui, on a des enfants qui sont très sensibilisés visiblement aux procédés écologiques, qui nous ont demandé du compost, qui ont demandé qu'on ait un travail avec les agriculteurs. Agriculteurs de proximité pour les cantines. Oui, il y a des prises de conscience précoces.
Et les 5 gagnants d'aujourd'hui, en tout cas, sont absolument opposés à la destruction du parc Montcalm. Ils me l'ont bien souligné tout à l'heure.
Nous sommes tout à fait d'accord avec eux.
Et puis, les propositions du Conseil municipal des enfants seront-ils entendues par les adultes du Conseil municipal ? Nous comptons donc sur Gilles Geoffrey de Radio Aviva pour nous le dire d'ici quelques mois. En cette troisième semaine de novembre, la littérature jeunesse est à l'honneur au festival La Maman des Poissons, un événement qui se déroule chaque année dans l'Hérault, à Pézenas. Une 20aine d'auteurs sont réunis dans la cité natale de Bobby-Lapointe jusqu'à dimanche soir pour cette 11e édition. Un festival autant pour les petits que pour les grands, au vu de la diversité des sujets abordés dans les livres. Ce sont les enfants de l'association Laser qui ont interrogé sur Radio Pays d'Hérault la présidente du festival, Françoise Morel. Elle leur répond sur le thème choisi cette année par le festival, ce souvenir.
Pourquoi avez-vous choisi le thème ce souvenir ?
Eh bien, c'était il y a 2 ans. On s'est dit qu'on avait pensé qu'en 2014, ça serait le 100e anniversaire de la guerre, de la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914-1918. Et donc, on avait envie de rendre hommage à ce moment de l'histoire, donc de faire un thème un petit peu historique. Et on a aussi pensé aux enfants petits qui viennent à la Maman des Poissons, parce qu'il y a aussi des enfants de maternelle. Donc la guerre de 1914 pour les enfants de maternelle, c'est un petit peu difficile. Donc on a trouvé que le thème se souvenir, eh bien, ça permettait aussi bien de parler de l'histoire de France, de l'histoire du monde, mais aussi de l'histoire de chacune des personnes. Et d'ailleurs, dans le festival de littérature, il y a un spectacle qui s'appelle Mon arbre, qui est pour les enfants, bien sûr, et dans lequel c'est une petite fille qui se promène dans un arbre, mais un arbre un petit peu particulier, puisque c'est un arbre généalogique. Est-ce que vous savez ce que c'est un arbre généalogique ?
Non. Oui.
Alors vas-y, explique à tes copines, parce qu'elles savent pas.
C'est, en fait, c'est comme l'arbre de nos ancêtres.
C'est exactement ça, voilà. Hein, on fabrique comme un arbre qu'on dessine avec ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et on essaye de remonter comme ça le plus loin possible. Voilà. Et cette petite fille de ce spectacle-là, qui est un spectacle de marionnettes, elle s'appelle Violette Vermillon et du haut de ses 3 pommes, parce qu'elle est toute petite, elle grimpe, saute et se balance dans son arbre généalogique.
Est-ce que ce festival, il est payant ?
Alors, c'est une très bonne question. Quand on veut venir à la Maman des Poissons, on peut venir sans problème, gratuitement. Rentrer dans le cœur du festival, c'est au foyer des campagnes à Pézenas, hein, la maison du peuple. Là, on peut y venir, c'est gratuit. Si on veut rencontrer des auteurs, parler avec des auteurs, c'est gratuit. On peut échanger des livres gratuitement. Après, ce qui est payant, c'est que si on a envie, on peut acheter des livres. Ça, c'est payant. On peut aller voir toutes les expositions, elles sont gratuites. Il y a des animations qui sont prévues, des jeux qu'on met à votre disposition, des animations. Tout ça, c'est gratuit et les spectacles sont payants. Les spectacles sont 6 € pour les adultes et les grands et 4 € pour les enfants.
La maman des poissons, elle est bien gentille.
Ce festival de littérature est à vivre à Pézenas jusqu'à ce dimanche soir. Davantage d'infos sur www.lamamandespoissons.com. Lamamandespoissons.com. Ce carnet de région se referme pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Carnet de Région est une émission produite et réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir.